Les enfants de Chronos. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, Nicolas Bilot, archéologue. Aujourd'hui, le château de Béthisy-Saint-Pierre, une petite notice d'histoire et d'archéologie. À mi-chemin de Senlis et Compiègne, comme une jonction entre les forêts de Cuise et d'Alatte, profitant de la nonnette et d'une topographie avantageuse, les châteaux de Béthisy-Saint-Pierre sont les grands oubliés de notre territoire. Oui, j'ai bien dit les châteaux, au nombre de trois, très différents, tous incomplets ou modifiés, mais bien réels. Leur histoire reste à faire d'ailleurs, aucun historien ou archéologue ne s'est encore clairement penché sur le sujet, et leur chronique reste parfois un peu confuse. Reprenons ensemble. Le premier château aurait été fondé par la reine Constance, épouse de Robert II, en 1026. Il s'agit bien là d'un château-forteresse, par opposition, complément avec le palais résidentiel et administratif de Verberie. Ensemble d'ailleurs, ces deux bourgs vont former la châtellenie royale et banale de Béthisy-Verberie. L'on pourrait résumer ainsi la situation. En temps de paix, Verberie profite du contexte et de son emplacement géographique à la confluence de l'Oise et de l'Automne pour s'enrichir et se développer. C'est ainsi qu'il faut comprendre d'ailleurs pourquoi elle a accueilli un palais carolingien dès le 7e siècle, mais ce n'est pas le sujet ici. En temps plus difficile, à l'inverse, c'est plutôt Béthisy qui devient la capitale locale la plus sûre, protégée par son vieux château en situation imprenable, et les deux bourgs fonctionnent ainsi comme des vases communicants indissociables durant tout le Moyen-Âge, Béthisy augmentant quand Verberie descend, décline, et à l'inverse, Verberie reconnaissant une superbe lorsque Béthisy décline. Louis VI le Gros vient souvent à Béthisy-Saint-Pierre et modernisa certainement le premier château, où il mourra d'ailleurs. Philippe Auguste y vient lui aussi régulièrement à son tour, et dut employer la force pour contraindre Philippe d'Alsace, comte de Flandre et comte de Valois, son grand adversaire du début de règne, à lever le siège qu'il avait installé là en 1183. Suite à cet épisode, Philippe Auguste dota le site d'une garnison permanente, car rare au Moyen-Âge, les garnisons étant la plupart du temps exceptionnelles, et cette garnison permanente sera sous la responsabilité d'un châtelain. Il revint souvent jusqu'en 1218, on le sait notamment grâce à l'apposition des signatures sur les chartes royales. Philippe IV le Bel, un siècle plus tard, fit faire des travaux et y vint relativement régulièrement, notamment ici encore à l'occasion des chasses en forêt de Halatte et de Cuise qu'il aimait tant. En 1359, les défenseurs tiennent le château face aux Anglais de la garnison de Creil dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Ceci n'empêche pas que ce qui est mentionné comme étant le manoir du roi est décrit comme toute détruite et ruinée. En 1375 et en 1431 encore, après l'épisode Jeanne d'Arc, un inventaire des forteresses dressées pour le roi de France fait figurer Béthisy parmi les places non tenables et devenues des repères de voleurs et robeurs. En 1562, Catherine de Médicis ordonna de refaire les défenses pour 1000 livres, mais les habitants protestent. En 1618, Louis XIII ordonna le coup de grâce, un démantèlement définitif. Il faut dire que depuis 1615, la terre de Béthisy-Saint-Pierre appartenait à Louis Fécamp, célèbre dans le Valois surtout pour avoir été également maître du château de Fécamp, auquel il a laissé son nom, sur le site actuel de l'abbaye du Moncel à Pontpoint. En 1625, c'est Nicolas de Lancy, le bâtisseur de l'actuel château de Raré, qui achète Béthisy-Saint-Pierre. Cette acquisition s'intégrait dans une politique plus large de constitution d'un grand domaine autour de son fief principal. D'après l'architecte compiénois Léré, le château fut ponctuellement réparé et réutilisé pendant les troubles de la minorité de Louis XIV, nous dit-il, c'est-à-dire durant la Fronde. En 1652, effectivement, les troupes de Condé occupèrent Béthisy-Saint-Pierre, pillèrent la ville et bien plus encore. Ils en furent chassés par les troupes de Turenne. Disons-le, l'architecture du château de la Motte à Béthisy-Saint-Pierre est formidable. Profitant d'une énorme butte essentiellement naturelle, il est aménagé au sommet une plateforme ovale de 60 mètres sur 45, où il ne reste malheureusement presque rien. Seule une gravure de l'abbé Carlier, auteur érudit, mais nous l'avons déjà dit, toujours approximatif, il y aurait eu au sommet de la motte la plus grande partie du premier château, dont notamment la tour maîtresse, ou grosse tour, mais aussi un puits, une porte surmontée d'une chapelle, au moins un bâtiment à fonction de logis, et à n'en pas douter des bâtiments de service. Cet ensemble formait ce qu'on appelait alors le donjon, c'est-à-dire la partie la plus noble du site, qui ne se résume donc pas, et d'ailleurs presque jamais, à la seule tour. Signalons aussi la présence passée, sur le flanc du coteau de la Butte, d'une chapelle fondée par Richard de Béthisy, un des châtelains. Il s'agissait de l'église castrale de Saint-Adrien, qui sera offerte plus tard aux chanoines de Saint-Quentin de Beauvais. Elle aura plusieurs possessions dans le Valois, notamment à Versigny. Lorsque l'on s'y promène, le site est malheureusement aujourd'hui bien muet, gardé par un troupeau de boucs et un rempart médiéval réagréé dans un style paysager au début du XXe siècle. Pourtant, l'emplacement reste remarquable, avec cette puissante motte, la plus grande de tout le nord de la France, qui essouffle celui qui la gravit, et où on constate au sommet des amorces de caves et de fondations qui encouragent à s'imaginer le formidable potentiel archéologique du site. En réalité, depuis le XIVe siècle, vraisemblablement, c'est un second château qui était préféré des rois. Et peut-être plus particulièrement d'ailleurs du roi Jean de Lebon, dont il s'agit ici du seul élément monumental qui ait survécu dans tous les Hauts-de-France. Cet élément qui nous est parvenu est cette fois-ci en fond de vallée. Il s'agit de la très élégante porte flanquée de tourelles polygonales à flèches de pierre, décorées de crochets. L'architecture est soignée, sobre, similaire dans ses principes à ce que l'on retrouve à la même période à l'abbaye du Moncel. Fenêtres à croisées, larmiers, retrait de maçonnerie à l'amorce du pignon, jolies portes à colonnettes et voussures, etc. L'objectif n'est pas d'asséner des termes techniques, mais de faire comprendre qu'il s'agit là d'une architecture de détail très soignée. L'architecte Léré, encore lui, témoigne avoir connu ce qui s'appelait à l'époque la salle des gardes de Charles VI, démolie en 1823. Il s'agissait vraisemblablement d'une belle salle de trois niveaux à tourelles en encorbellement, qui devait se situer dans la cour qui s'ouvre derrière le châtelet, remplacée par une ferme aujourd'hui devenue résidence. Et à partir du XVIIe siècle, peut-être même dès le XVIe siècle, c'est un troisième château qui devient le siège principal de Béthisy, le château de la Douy. C'est aujourd'hui un ensemble hétérogène, à trois corps, où l'on distingue premièrement une tour hexagonale d'escalier en vis et la façade d'une ancienne chapelle dans un style gothique flamboyant du XVe siècle, avec une jolie corniche décorée de choux frisés. Ceci nous témoigne que le château de la Douy, sous une autre forme, existe vraisemblablement dès la fin du Moyen-Âge. À cet ensemble ancien va venir s'accoler une aile au XVIIe siècle, avec un pavillon en retour et une tourelle circulaire à l'angle, dont on peut se demander d'ailleurs si cette tourelle circulaire n'est pas elle aussi un vestige du château médiéval à rhabiller. C'est l'aile où l'on voit bien que l'étage noble est encore au second niveau, au plus grand. Puis viendra s'ajouter une deuxième aile, une aile du XVIIIe siècle. Celle-ci, à l'inverse de celle du XVIIe siècle, voit accueillir au rez-de-chaussée l'étage noble et non plus au premier étage. Désormais, le premier étage accueillera les chambres. Tout porte à croire que l'on puisse imputer aux de Lancy, au seigneur de Raré, puis titulaire du marquisat de Néry-Raré, qui englobait alors Verberie et Béthisy-Saint-Pierre, l'aile du XVIIe siècle. Ceux-ci semblent avoir bâti partout où ils ont été maîtres, et il semble que partout où ils aient bâti, ils aient aimé composer leur nouveau château autour des anciens. C'est le cas à Raré, qui a fait l'objet de recherches toutes récentes. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre pourquoi la partie médiévale du château de la Douy a survécu. C'est parce que vraisemblablement on a souhaité l'intégrer dans une composition d'architecture classique, ce qui prouve que l'architecture médiévale n'était pas toujours vécue par les gens de l'Ancien Régime comme étant un archaïsme architectural, mais aussi parfois comme étant une émulation presque parfaite de cette architecture complexe du gothique. En somme, à Béthisy, ces trois châteaux, distants d'à peine quelques centaines de mètres, que l'on peut découvrir. L'un perché, les autres en fond de vallée, tous royaux ou princiers. Voici au moins la première raison de vouloir découvrir ou redécouvrir Béthisy-Saint-Pierre, si injustement maintenue en dehors des circuits touristiques habituels. Ajoutons à cela une église remarquable, puissante, évocatrice, tout récemment classée monument historique, mais aussi un centre ancien, curieux, à la topographie accidentée, et des paysages abrupts, remarquables et relativement naturels. Vous voici assuré de ne pas s'ennuyer si d'aventure je suis parvenu à vous donner l'envie d'une promenade dans l'une des capitales de cette châtellenie royale bicéphale.